love on.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
h 35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des mobilisations pour la semaine prochaine dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites. 3 journées de mobilisation, 7, 8 et 11, avec des syndicats qui sont un petit peu divisés sur la marche à suivre. Faut-il faire grève et bloquer les transports le 11 février, journée de vacances scolaires? On va regarder et écouter surtout ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sur ces hésitations des syndicats et puis on en débat ensuite.
Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminots, pour se faire entendre par l'exécutif, il faut durcir le ton.
On a un gouvernement qui est sourd, faut parler un petit peu plus fort, donc parler un peu plus fort pour les cheminots, et pas seulement pour les cheminots, c'est à la fois réussir le mardi 7, mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels.
Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seuls Sudrail et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé, la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés, mais Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, veut temporiser.
Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de février, nous appelons plus à une mobilisation qu'à se mettre en grève.
Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B, pour le jour du grand départ.
Surtout quand on travaille, on attend que ça toute l'année. J'estime que les vacances, on en a besoin, oui. C'est pas là qu'il faut frapper, c'est ailleurs. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il y en a marre, quoi.
Si on n'a pas de train, je ne sais pas comment on va faire. Soit qu'on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Hein.
Si les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF.
Et on a posé la question aux Français de savoir, faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires? C'est le cas notamment en Italie, il y a une loi qui empêche de faire grève pendant les vacances scolaires. La réponse, selon notre sondage CSA pour CNews, c'est non. 57% des Français ne veulent pas qu'on interdise ces grèves pendant ces moments quand même assez familiaux. 43% oui. Éric Revel, c'est assez surprenant ou pas? Ça montre vraiment le taux d'adhésion à la contestation, ce chiffre. 57% des Français qui ne veulent pas interdire les grèves.
On peut dire, ça montre que la mobilisation, j'allais dire populaire, prend de l'ampleur. On pourrait aussi voir les choses un peu différemment. On pourrait dire, bon, les Français ne sont pas une incohérence près. C'est-à-dire, vous me gênez, mais quand on me demande mon avis sur faut-il des grèves ou pas pendant les vacances, les interdire, je suis plutôt pour ne pas les interdire. Mais ce que dit ce sondage, à mon avis, en creux, si je peux me permettre, c'est que là, vous avez testé les Français.
Les Français.
Et quand vous voyez ce qui s'est passé lors de la grande mobilisation d'il y a 2 jours, en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait moins de grévistes, par exemple, à l'Éducation nationale, mais plus de gens dans la rue. Ça veut dire que ce mouvement est en train de devenir un mouvement populaire, hors syndicat. Il n'y a pas que des salariés syndiqués, il n'y a pas que des syndicalistes qui sont dans la rue. Et je pense, sans vouloir fracturer le front syndical autour de ces mots d'ordre, que en fait, certains syndicats se posent la question suivante. Doit-on décourager ceux qui ne sont pas syndiqués et qui viennent manifester? Certains ont déjà tranché, et un acte de responsabilité de la CGT Énergie qui a dit, nous, on ne va pas fermer les raffineries. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, désespérer
Biancourt,
mais il ne faut pas désespérer les gens du peuple qui viennent manifester aux côtés des syndicats. Et je pense que c'est peut-être ce qui explique cette espèce de position différente selon les syndicats, avec des contraintes plus coercitives pour les gens, jusque y compris pour les vacances, et d'autres qui, au contraire, disent on ne va pas les emmerder davantage.
D'accord. Éric Nolot ?
L'évidence, c'est que si vous aviez posé la même question il y a 3 mois, vous auriez obtenu un résultat très différent, parce que je pense que ça, c'est un signal qui est envoyé à Mme Borne et au président de la République. C'est pour ça que je trouve que ça sent de plus en plus le brûler pour cette réforme, parce que le soutien populaire contre la réforme est en train d'augmenter. Pour parler plus clairement, le soutien en faveur de la réforme est en train de s'effriter. Sur le plan parlementaire, ça va de plus en plus mal, même au sein de la majorité. Chaque fois que les députés rentrent dans leur circonscription, ils ont affaire à ces gens qui ont répondu à ce sondage et qui leur disent « nous, on est prêts à aller aller loin. Il voit bien que ça peut durer très longtemps et qu'à la fin, la réforme peut être enterrée et que le coût politique sera très, très élevé. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à ce sondage qui me semble vraiment crucial.
57% des Français qui ne veulent pas qu'on interdise la grève, François Pupponi.
Oui, parce que d'abord, les Français sont attachés au droit de grève. Du manière générale, même si parfois ils crient parce qu'ils sont plus gênés par une grève, mais ils sont pour ce droit de grève. Ils sont contre cette réforme majoritairement. Alors, par rapport aux syndicats, effectivement, l'idée, c'est de dire on ne va pas leur faire peur, on ne va pas essayer de les pénaliser. Le problème, c'est que s'il y a deux ou trois nouvelles manifestations qui sont prévues, où il y a beaucoup de monde et que le gouvernement ne recule pas, on tombera dans la grève dure. À un moment, les syndicats seront obligés d'y aller parce qu'ils savent très bien qu'une grève, elle se gagne comme ça. On bloque, ça devient impopulaire, mais les gens disent au gouvernement « Ok, on en a marre, donc retirez vos textes pour qu'on retrouve une manière de circuler. » Donc, ils seront obligés, mais pour l'instant, ils ne l'annoncent pas. Ils ont raison de ne pas le faire parce qu'ils pensent qu'avec le peuple dans la rue, ça suffira. J'ai bien peur que ça ne suffise pas, et ça sera quand ça se durcira que le gouvernement sera peut-être obligé, si effectivement ça continue à se passer mal dans l'hémicycle, parce que...
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'hémicycle la semaine prochaine?
C'est donc globalement 20 impossible.
20 000 amendements, ça veut dire qu'on ne peut pas les étudier tous, évidemment.
On ne peut pas les étudier tous, donc on n'ira pas au bout des amendements. Donc l'opposition dira, on nous empêche de parler, on nous baillonne, etc. Le texte partira au Sénat en l'état, avec les quelques amendements votés, reviendra, et après le risque, c'est un 49-3. Parce que s'il n'y a pas de majorité, y compris avec les Républicains, le gouvernement devra faire voter le texte avec le 49-3.
Donc ça veut dire que la NUPES veut faire en sorte que le gouvernement passe en force sur ce texte.
En disant,
il n'y a pas eu de débat.
Ils n'écoutent pas le peuple, nous, on est le peuple.
Exactement.
Puisque les députés sont les représentants du peuple. On nous empêche de discuter sur un sujet aussi important. Donc ce gouvernement ne veut pas écouter le peuple.
C'est un peu paradoxal. Parce que un des moyens d'empêcher le passage en force, ce serait de faire tomber le gouvernement dans le cadre d'un 49-3. Et il l'exclut par avance. Ils ne veulent pas mêler leur voix aux autres oppositions.
Une motion de censure, vous voulez dire.
Motion de censure, oui, tout à fait.
Pas 49-3.
Oui. Non, bien sûr. En réponse au
49-3. Jean-Sébastien Ferjou.
Moi, ce qui me frappe, il y a votre sondage qui est très intéressant, effectivement, qui probablement dit quelque chose aussi sociologiquement, parce que vous répondez quand même un peu au moment où on vous pose la question. Mmh. Là, ce sont les vacances d'hiver qui arrivent. Tout le monde ne part pas, loin de là. Les gens qui partent au sport d'hiver, c'est quand même une fraction très minoritaire.
Bien sûr. Enfin, il y a des gens qui vont juste dans la famille, et c'est pas forcément au sport d'hiver.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les vacances de Noël que c'est aussi révélateur justement de ce qu'est ce mouvement d'un point de vue sociologique. Et il y a une autre enquête d'opinion que je trouve très intéressante. Il y a 10 jours encore, on disait qu'il y avait 2/3 des Français, un peu plus d'ailleurs, je crois 67% si je me souviens bien, qui pensaient que cette réforme finirait par être votée. Là, je voyais aujourd'hui, ça n'est plus que 56%. C'est-à-dire que la proportion des gens qui commencent à entrevoir le fait qu'il serait possible d'entraver le gouvernement, elle grimpe. Et donc... ça a des effets politiques, parce qu'il y a le Parlement, mais justement, jusqu'à présent, la stratégie du gouvernement, c'était de miser sur cette alliance de circonstances avec les Républicains. Je pense qu'on était à peu près à 2/3, 1/3, hein, dans le rapport de force des députés qui envisageaient de le voter ou ceux qui ne souhaitent pas le voter. On a vu Nicolas Sarkozy entrer dans le débat hier. Absolument. Je pense que les députés républicains, y compris s'ils se projettent dans le scénario d'une dissolution, ceux qui viennent justement de circonscriptions plus rurales, peut-être plus populaires, etc., sont en train de se dire que si réellement les Français ne souhaitent pas de cette réforme-là, peu importe le fait qu'eux-mêmes aient réclamé ou non cette réforme-là dans le programme de Valérie Pécresse, de toute façon, je ne suis pas sûr que grand monde se souvienne du programme de Valérie Pécresse, eh ben, il ne faut pas la voter. Et donc, ça devient une toute autre donne politique pour le gouvernement, parce que faire passer cette réforme-là effectivement par un 49-3, ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir fait voter malgré la mobilisation du pays.
Le problème des Républicains, c'est qu'avec le nombre d'amendements déposés par la NUPES, on risque de ne pas pouvoir étudier les amendements des Républicains qui veulent modifier le texte pour justifier leur vote. Ah oui. Donc si à la fin le texte ne comporte pas les mesures voulues par les Républicains, ils auront beau
rôle. Qu'est-ce qu'ils veulent
modifier ? Ça peut les arranger aussi.
Qu'est-ce qu'ils veulent modifier ?
Ils voulaient sur les carrières longues.
Les femmes. Voilà.
Sur le fameux 1 200 € brut et net, et pour un peu tout le monde et pas seulement ceux qui avaient toutes leurs annuités. Donc ils voulaient faire des propositions pour l'améliorer, pour justifier leur vote. Mais si le débat n'a pas lieu et que leurs amendements ne sont pas retenus parce que justement, en fait, il n'y a pas de débat, certains
diront... De toute façon, on voit bien que le gouvernement...
Ils ne vont pas voter, quoi.
Ils risquent de dire, le compte n'y est pas, donc on ne vote pas.
On voit bien que le gouvernement se sent un peu perdu, ne serait-ce que dans la ligne d'argumentation qu'il suit. Ça a été une réforme qui a été présentée comme une réforme de justice. On est passé maintenant à une réforme de nécessité budgétaire. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas trouvé le bon angle et que...
Que la première mouture, c'était une réforme totalement différente avant qu'elle soit...
En 2019.
Donc, ça fait quand même beaucoup de zigzags.
Encore autre chose.
Oui, mais bien sûr. Mais de facto, ils ont enregistré le fait que, de toute façon, les Français ne seraient pas convaincus. Elisabeth Borne va essayer à nouveau de le faire ce soir, encore dans une grande émission politique.
Un courage.
Mais c'est profondément méconnaître. Les Français n'ont pas besoin de pédagogie. D'autant qu'on ne fait pas de la pédagogie sur l'ensemble des enjeux. Parce que s'ils faisaient vraiment de la pédagogie sur l'ensemble des enjeux, on parlerait de l'impact du vieillissement, on parlerait de la dépendance, on parlerait de l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé. Et puis, accessoirement, on le restituerait dans l'intégralité des problèmes de finances publiques qu'on a. On avait 155 milliards de déficit sur rien que sur les dépenses de l'État l'année dernière. Ça n'a aucun sens de se préoccuper que de ce trou de 13 milliards à l'abstraction de tous les autres. Regardez encore, quand on voit ce rapport sur les autoroutes que Bruno Le Maire refuse obstinément de publier, dont on voit qu'il y aurait 55 milliards de rentes indues pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Après la valse des milliards qu'on évoquait tout à l'heure pendant le Covid, la valse des milliards, justement tous ces déficits-là, mais les Français se disent pourquoi serions-nous les seules variables d'ajustement sans que jamais l'État ne fasse d'efforts lui-même.
Et puisque Éric Moulot, sans compter
qu'au début de la réforme, je ne sais pas si vous en souvenez, mais au début, certains ministres, dont Bruno Le Maire, expliquaient que la marge qu'on allait obtenir grâce à cette réforme des retraites ne servirait pas pour financer les retraites, mais pour financer la transition écologique. Vous vous souvenez ? Donc c'est quand même.
Ça ressemble un peu au début du mouvement des Gilets jaunes où on expliquait que la nouvelle taxe servirait à ça, et en fait on nous a expliqué que ça servait à renflouer les caisses de l'État.
Et mon dernier
décidément,
sans compter,
les leçons ne sont pas tirées.
Et mon dernier sans compter, c'est que je pense que l'appui de Nicolas Sarkozy avec cette interview dans le Figaro magazine, il y a peut-être plus que l'ancien chef de l'État qui y croit, parce que quand vous regardez la façon dont il est perçu chez les LR aujourd'hui, après avoir quand même trahi son propre camp avec ce chèque de 2000 euros qu'il a envoyé pour essayer de financer les difficultés financières de financer Mme Pécresse, je pense qu'il est... vous savez, souvent, sont les enfants qui coupent le cordon ombilical en général avec les parents. Là, d'une certaine manière, c'est le père qui a coupé le cordon ombilical avec ses enfants.
C'est plutôt contre-productif.
C'est votre théorie, ça. Tout ça, en plus, sur un fond d'inflation qui impacte très très fortement les porte-monnaies des Français. La consommation des ménages baisse, les prix du gaz et de l'électricité, vous le savez, continuent d'augmenter, et puis on a pris 15% en plus. Écoutez les explications de Sarah Fenrazi et Olivier Gangloff.
Les Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marquée, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter.
Un peu plus attention, mais pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim, c'est déjà beaucoup.
Malheureusement, quand on est retraité, on fait deux fois plus attention à son porte-monnaie. Mais on prend le strict minimum, quoi.
En 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, les consommateurs achètent moins et surtout sont poussés à comparer les prix.
Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les promotions et puis j'achète, je me dis tiens, je vais manger ça et ça, puis j'arrive dans un magasin, je vois que c'est trop cher, donc du coup je regarde ce qu'il y a en promotion, je mange autre chose et puis je m'adapte.
S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et légumes.
La viande, j'en prends plus parce qu'elle est très chère, la viande, tout ce qui est viande, jambon et tout ça, j'en prends plus.
Le poisson, la viande, les légumes un peu. Ça commence, acheter des légumes, là c'est cher.
Et la tendance devrait se poursuivre. La grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
Voilà pour ce reportage de Sarah Fenzari. Effectivement, Éric Nolot, quand on cumule tout, franchement, il y a des motifs à une immense colère sociale.
Oui, puis il y a des motifs surtout à reporter la réforme des retraites dans un paysage...
Mais c'est jamais le bon moment.
Admettez quand même que...
Il n'y a jamais de bon moment.
Je comprends bien. Mais on est en train de discuter 48 heures après l'annonce d'une hausse massive du prix de l'électricité.
15%.
Des péages. Si vous êtes parisien, vous vous déplacez avec le Pass Navigo qui a pris un bon coup aussi derrière la tête. Une chose qui commence à passer en dessous des radars, on n'en parle plus, mais dans des tas de villes, vous avez des restaurants et des commerces qui ferment leurs rideaux, jour après jour. Et c'est dans ce paysage un peu désolé, je suis d'accord avec vous, c'est jamais le bon moment, mais enfin, dans ce paysage désolé qu'on dit « Ah, c'est le bon moment pour discuter, est-ce qu'il faut travailler deux ans de plus ou pas ?» Moi, je ne pense pas que psychologiquement et même logiquement, ça soit très fondé. Voilà.
Éric Revel, vous qui connaissez bien l'économie.
Je pense qu'on rentre dans une situation catastrophique. Je ne sais pas si vous avez lu, enfin moi j'ai lu beaucoup d'extraits du rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Sur le mal logement.
Sur le mal logement, mais aussi sur le basculement.
y compris de certains ménages qui appartiennent aux classes moyennes et qui sont en train de se paupériser. C'est pour ça que je trouve que ce reportage, il n'est pas du tout extrême dans la façon dont... C'est, à mon avis, la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Et si vous voulez, ce qui est très inquiétant quand même, c'est que, Marc Toitier en parle de temps en temps, le fameux indice de confiance des ménages qui est au plus bas aujourd'hui, c'est en fait un indice précurseur de la consommation. C'est-à-dire que les gens sont sans argent, sont en grande difficulté, et en fait, l'indice de confiance traduit le fait qu'ils vont moins consommer. Alors, ils vont moins consommer, donc moins se nourrir.
En tout cas, moins bien.
Moins bien, oui, moins bien se nourrir, ce qui peut d'ailleurs avoir aussi des implications sur la santé de tout à chacun, eh oui. Et ce qui est embêtant et dramatique pour certains ménages va l'être aussi pour la croissance française en rebond. Pourquoi ? Parce que le principal moteur de la croissance française, ce ne sont pas les exportations comme l'Allemagne, et heureusement, parce que vu l'ampleur du déficit commercial, c'est la consommation des ménages. D'accord. Donc, par contre-coup, au-delà des difficultés des uns et des autres à bien se nourrir, pour reprendre votre terme, Laurence, il va y avoir un impact sur, sans doute, là, le prochain trimestre, sur la croissance française.
Ouais. C'était pas forcément le... Il faut faire cette réforme, c'était pas forcément le bon moment.
Mais trouvez-moi le bon moment. Je pense qu'il
fallait la lancer.
Mais c'est peut-être pas la bonne réforme.
Une grande concertation. Qu'on découvre même maintenant, le gouvernement lui-même dit, oulala, oui, effectivement, il faut s'occuper des carrières hachées, il faut s'occuper du problème des femmes, il faut s'occuper... Et donc, ils vont être obligés de déposer un nouveau texte en juin. Parce qu'ils ne peuvent pas le mettre dans ce texte-là. Donc, même eux, dans le cadre du débat, ils s'aperçoivent qu'il y a des manques, qu'on découvre des situations qui ne sont pas acceptables. Donc, on aurait pu prendre, entre guillemets, les quelques mois qu'il fallait pour faire de la concertation et apporter une réforme qui serait plus efficace et plus juste, puisque le principe, c'est de faire une réforme juste. Là, on s'aperçoit que c'est le pire des moments.
Il y avait peut-être un moment, je suis d'accord avec vous, il n'y a jamais dans l'absolu le bon moment, mais il y avait peut-être un moment en 2019. En 2019, il y avait un accord de la CGT sur la réforme à l'époque systémique, là qui était une vraie réforme de justice.
Qui a été retirée. Ils l'ont retirée.
Mais pourquoi est-ce que ça a été retiré ? Ça a été retiré parce qu'Édouard Philippe s'est entêté et a voulu rajouter du paramétrique, donc effectivement allonger les cotisations.
Il est pour 67 ans, lui.
Dans sa grande sagesse politique, effectivement. Et c'est ça qui a provoqué le blocage. Parce que quand vous avez la CFDT qui est d'accord pour voter une réforme des retraites, je pense que la logique politique, elle est d'y aller. Cela dit, ça en dit long sur le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas Jupiter, parce que précisément, il est incapable souvent de trancher. Alors, il procède un peu par à-coup. Alors, il va avoir un caprice. Il dit, il faut faire une réforme des retraites parce qu'il faut que je prouve que je sois réformateur. Donc, vous allez voir que là, derrière, on va aller vers un scénario qu'il ne faut pas écarter. C'est qu'ils essaient quand même de la faire voter, mais qu'elle soit tellement, tellement dépouillée de son contenu. Il n'y a pas grand-chose à dépouiller, à vrai dire. Donc, parce qu'elle n'est pas très ambitieuse. Que ça finisse par nous coûter plus cher. Parce qu'il lâche, effectivement, sur des choses qui peuvent être des causes socialement justes. Mais quand vous raisonnez sur l'équilibre, ça n'a strictement aucun sens. Et pour en revenir au pouvoir d'achat, effectivement, la situation, elle est terrible pour les ménages les plus défavorisés.
Il y a même les classes moyennes, comme disait Eric Revel, pas que les plus défavorisés.
Non, bien sûr, mais les classes moyennes, c'est différent. Parce que les classes moyennes, quand vous regardez les livrets d'épargne...
Elles sont en dehors de tous les systèmes d'aide, les classes moyennes.
Il y a quand même énormément d'épargne. Non, mais je pense que c'est un autre problème que le pouvoir d'achat du quotidien. Là, on passe dans l'immobilier. On est devenu une héritocratie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Mais c'est quand même une grande différence.
Oui, non, mais
si
vous n'avez pas, à mon avis, une nouvelle situation... Alors, Eric Revel et après Jean-Sébastien. Qui est assez nouvelle, quand même, en France, c'est que jusqu'à présent, on avait 8 à 9 millions de personnes qui étaient dans une grande souffrance sociale et économique. Aujourd'hui, c'est en train de mordre sur les classes moyennes. Or, vous savez, les classes moyennes dans un pays, c'est quoi ? C'est le point d'ancrage du développement et de la croissance.
Mais précisément,
quand les classes moyennes sont attaquées...
Mais quand on le regarde en détail, Eric, précisément, moi, je maintiens que quand vous regardez l'épargne, elle est très élevée dans le pays, il n'y a pas moins de réservations pour les vacances. Les classes moyennes, leur vrai sujet, c'est l'immobilier. Et c'est d'autant plus absurde de se préoccuper que de cette réforme.
C'est-à-dire trouver un logement, d'avoir un logement décent.
C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, en réalité, n'a pas baissé. Il a même un peu augmenté. Mais nous sommes devenus des héritocraties. C'est-à-dire qu'avant, quand vous rentriez, par exemple, sur le marché du travail, il y avait des gens qui pouvaient s'acheter tout de suite un logement. Là, non seulement vous ne pouvez plus, mais vous ne pouvez même pas louer un appartement quand vous travaillez dans une grande ville. Le fait qu'on ne fasse rien sur l'immobilier, sur la fiscalité de l'immobilier, c'est très différent. Il y a une intensification, quand on regarde bien les chiffres, il y a une intensification de la pauvreté chez les plus défavorisés, et les autres, ceux qui pèsent principalement sur eux, C'est l'immobilier.
Mais pardon, allez, les gens font de l'épargne en France, ils font de l'épargne en France, c'est ce que les économistes appellent l'encaisse de précaution, c'est précisément parce qu'ils ont la trouille de l'avenir. Et c'est pour ça qu'ils...
Mais aller demander à quelqu'un qui ne s'achète pas de légumes, ce n'est pas parce qu'il est en train de faire de l'épargne. Je vous assure qu'il y a une différence entre les deux situations.
François Pupponi.
Non, c'est vrai qu'on rentre dans le dur. Et je répète, moi je ne vois pas comment... Là, on s'en sort dans les 2-3 mois avec une situation économique qui va se dégrader. Parce que... l'inflation est devenue insupportable. Le logement, le rapport de l'abbé Pierre est apocalyptique. Enfin, les gens n'arrivent même plus, effectivement. Et on n'a jamais aussi peu construit de logements. Il en faudrait 500 000 par an, dont 300 000 sociaux. Cette année, on va à peine arriver à 100 000. C'est-à-dire que la production de logements s'écroule avec les conséquences économiques.
Et la réglementation sur les passoires thermiques va
aggraver la situation. L'augmentation des taux d'intérêt pour pouvoir devenir propriétaire, tout ça. Donc, on rentre dans une période compliquée. Et rajouter un sujet conflictuel comme ça...
Avec, le dernier mot d'Éric Nolot. Avec un élément psychologique, c'est qu'Emmanuel Macron en fait un point d'honneur. C'est-à-dire qu'il pense que son quinquennat...
S'arrêtera s'il ne passe pas cette réforme.
Absolument, et que la seule trace qu'il pourra laisser, c'est cette réforme des retraites. Quand vous êtes d'un côté avec un président qui en fait un point d'honneur et des syndicats qui ont décidé, quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, de ne rien lâcher, moi je suis vraiment très pessimiste, surtout dans le paysage que nous venons de décrire.
Et avec des Français très décidés à contester cette réforme.
Très décidés, très fragilisés, très paupérisés.
Il faut penser à eux. En 10 ans, le nombre de SDF est diminué par 2 en France. On est à 300.
Et souvent, il y a des travailleurs qui ont des salaires et qui n'arrivent pas à trouver de logement. Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info, Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.